19h-20h. Et les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 19h et nous sommes ensemble jusqu'à 20h, une heure pour commenter, analyser, décrypter l'actualité. Vous le savez, c'est ici que ça se passe, en toute liberté d'expression. Vous savez aussi que dans les informés sur Beurre FM, eh bien, nous parlons de plusieurs sujets. Au sommaire, qu'est-ce que je vous ai concocté ce soir? Eh bien, tout d'abord, une star du côté de Rouen, Stéphane Metterfi, l'homme de réseau, qui arrive avec le débarquement jeune, mais surtout qui a une idée en tête, qui m'en parle depuis un moment, c'est-à-dire que il veut galvaniser les troupes dans les quartiers populaires, mais surtout, il a peut-être certainement un coup de gueule ce soir. Alors on l'écoutera, c'est notre invité à 19h dans les informés. Ensuite, au sommaire, vous le savez, nous reviendrons sur cet épisode, les incidents au Stade de France, la polémique continue d'enfler. Mais surtout, chacun se renvoie la balle, l'organisation ou les organisateurs, Darmanin, pourquoi Emmanuel Macron ne s'est-il pas exprimé? Et surtout, les jeunes des quartiers populaires se sont emparés de la parole, évidemment, pour nous dire, mais pourquoi vous nous embarquez systématiquement dans ces embrouilles? Alors, et puis aussi, un autre sujet, c'est les législatives. Législatives qui commencent à prendre forme. Ça y est, ça se passe le 9 et le 12. N'oubliez pas qu'il faut aller voter, accomplir son devoir civique. N'oubliez pas que c'est aussi important puisque la majorité, le gouvernement ne peut pas se faire, en tout cas la politique d'Emmanuel Macron ne peut pas s'appliquer s'il n'y a pas une majorité. Législative 2022, on parle de plus en plus d'un danger de la NUP. Est-ce une réalité? Avec l'ancien du RAID, avec sa fondation, justement le RAID Aventure, mais également aussi chroniqueur chez Cyril Hanouna et chez RMC, les grandes gueules. Il est avec nous ce soir puisque c'est un habitué. Autre habitué, c'est Philippe Nadjibouriaki qui est avec nous, conseiller régional, pas Europe Écologie Les Verts, mais juste écologie. Bientôt peut-être certainement sous une autre étiquette, que sais-je, clochette. Fallait que je la place celle-là. Vous le savez, les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression, c'est parti.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Faut être sport, hein, les amis. Hein, faut
à fond,
faut c'est vrai, faut être sport parce que j'ai remarqué le rythme, il faut le tenir. Hein, faut
j'adore,
être cardio,
les,
hein.
J'adore les écologistes en plus.
Ouais, c'est ça.
Moi aussi, surtout le matin, petit déj.
Allez, c'est parti. L'invité du jour, l'invité, c'est Stéphane Metterfi. C'est parti.
Les informés. L'interview,
c'est avec Stéphane Metterfi, débarquement jeune, talent des cités, c'est aussi lui, l'homme de réseau, c'est aussi lui, il est originaire du quartier de Loussière, ça se passe du côté de Rouen. Stéphane Metterfi, ravi de vous recevoir, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Comment ça va mon cher Stéphane?
Bah, on fait aller, on continue le combat, je suis content aussi d'entendre...
Vous arrêtez jamais d'ailleurs, hein,
Non, on est agitateur social depuis 90.
Ouais.
Depuis 90 dans...
C'est quoi un agitateur social?
Bah, je pense que on est toujours là. Je vois Bruno, c'est connu dans les ministères justement.
Bah Bruno, vous pouvez le saluer, il est sur le plateau.
Salut mon cher ami. Salut
Bruno, tu vas bien?
Ouais, très bien.
Vous connaissez bien d'ailleurs avec Bruno.
On a
hein.
beaucoup travaillé ensemble avec Débarquement Jeune et Raid Aventure évidemment.
Oui.
Exactement, et c'est pour ça que quand je dis agitateur social, la preuve, il y a 30 ans, on était déjà sur le terrain ensemble et on est encore là autour de vous à Deep Arcane.
Oui.
Donc ça prouve que ceux qui ont encore cette fibre sociale, cette envie de faire bouger les choses, cette envie d'y croire encore, parce qu'il faut y croire avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je continue le combat et dernièrement, là, on vient de lancer une action qui s'appelle Débarquement de Job.
Ouais, ça existe d'ailleurs toujours la nuit des trophées. J'ai connu
oui,
ça.
Oui, tout à fait. Bon, il y a eu le Covid, donc ça a permis de décaler des dates. Mais on est en pleine préparation de la prochaine édition, en fait. Donc, ouais, ça continue. On n'a pas le choix.
Il a raison de s'embarquer dans débarquement jeune avec le job. Les jobs, c'est essentiel. Faire travailler nos jeunes, les former, les faire travailler, c'est essentiel. C'est une très bonne initiative qu'il a prise.
Dites-moi, Stéphane Metterfi, oui. Vous êtes l'invité des informés. Nous allons parler des choses qui nous concernent tous dans les quartiers populaires. Ouais. Vous avez régulièrement tapé des coups de gueule, je le sais. Mais notamment aujourd'hui, ce qui vous préoccupe, c'est que vous dites une chose qui m'a m'a interpellé. Lorsque j'ai échangé avec vous, Stéphane Métherfi, vous dites que nos quartiers de France, dans l'Hexagone, ils sont abandonnés. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Est-ce qu'on peut être un peu plus factuel, Stéphane Métherfi ? Bah,
en fait, le premier signe qu'on peut voir, le premier signe, c'était quand ils ont annoncé le gouvernement, tout simplement. On n'a pas parlé du ministère de la Ville. On n'a pas parlé de... Il n'y a pas de ministère de la Ville à l'heure où on parle.
C'est pas encore fini, mon cher Stéphane, hein, tu le sais.
Bruno Pommard.
Il va y avoir encore des annonces de secrétaire d'État et sûrement, j'ose espérer qu'il y aura un secrétariat d'État à la politique de la ville. Il faut l'espérer. Il y a l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, mais effectivement, c'est vrai, c'est un marqueur qui gêne un petit peu.
Bah, c'est un signe, hein, c'est un signe important pour moi parce que ministère de la Ville, d'annoncer dès le début, c'est important, même si c'est...
Exactement. C'est vrai. Vous le regrettez, ça, Stéphane Métherfi, hein?
Ouais, je le regrette parce que moi j'ai grandi comme ça. J'ai grandi la première fois que ça a bougé dans les 90 quand on a tué mon frère en fait dans les banlieues. Mmh. Faut pas l'oublier.
Bien sûr. Vous avez raison de le rappeler.
Voilà, c'est au ministère de la Ville qu'on m'a reçu. Mmh. Donc ça fait 90. Aujourd'hui on est en 2022. C'est la première fois que
il a raison, il n'a pas tort. C'est la première fois.
De la Ville, clairement indiqué dans l'avenir.
Vous êtes un homme de réseau, Stéphane Métherfi. Oui. Est-ce que vous l'avez fait savoir, parce que je sais que vous êtes aussi proche de tous ces acteurs politiques, y compris aujourd'hui la Macronie. Est-ce que vous leur avez dit que vous étiez préoccupé ? Est-ce que vous leur avez dit que les quartiers se posaient des questions ?
Alors, je vais commencer par le début. Si on parle de ce qui se passe aujourd'hui, et je crois qu'il y a eu un gros événement il n'y a pas très longtemps, à l'époque, de Michel Seclerc. Michel Zecler s'est abattu par la police, entre guillemets. À ce moment-là, j'avais justement le cabinet de la ministre de la Ville au téléphone.
Oui.
Et là, je lui dis, mais attendez, vous voyez ce qui se passe là aujourd'hui ? Vous voyez là, on vient d'entendre. Moi, tout de suite, c'est un retour en arrière. Et je fais des propositions directes. Je dis, moi, écoutez, moi, la subvention, c'est pas qu'une subvention que je gère. Avant tout, c'est la considération du travail qui est mené par les acteurs. Et la considération passe par une invitation, passe par être reçu, passe par écouter les acteurs terrain et pas avoir peur des acteurs terrain. Et je pense que quand vous dites que je suis un homme de réseau, oui, je l'ai fait savoir au tout le monde, je le referai toujours, ça fera. Mais je pense que c'est mal écouté ou le message n'arrive pas à la bonne oreille.
Il n'arrive pas à la bonne oreille. Aujourd'hui, vous avez aussi une autre inquiétude. C'est les législatives qui sont très prochainement, d'ailleurs, où on appelle hein, les différents acteurs des quartiers à maintenir évidemment le rythme du devoir civique. Dites-moi, là aussi, vous dites que vous êtes préoccupé, Stéphane Métherfi, parce que d'abord, est-ce que les législatives, ça parle dans les quartiers populaires ?
Non, avant
de vous poser la question de monter au créneau et pourquoi, est-ce que ça parle dans les quartiers populaires ? Est-ce que ça leur parle les législatives ?
Non, je pense que dans les quartiers, je pense que le signe au fait calculé peut-être aussi, le fait qu'on n'a pas annoncé un ministère de la Ville dès le début, c'est que le calcul était de dire ça vote pas, donc ils ne sont pas intéressés à la vie politique, ne sont pas intéressés à leur cité, ne sont pas intéressés à leur avenir.
Et pourtant ils l'ont démontré avec Jean-Luc Mélenchon
Moi, je serais plus optimiste que Stéphane là-dessus. Je pense que c'est pas fini. D'abord, il faut savoir qu'on a eu un ministère de la cohésion des territoires qui est sous la houlette de Amélie de Montchalin, je crois.
Hein. C'est ça.
Bon, donc l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui est là. Alors, effectivement, c'est pas vraiment la politique de la ville à proprement parler, mais quelque part, ça s'en rapproche. Donc, moi, il faut avoir de l'espoir, je crois, Stéphane, sur la nomination.
Oui.
Et puis, on fait le pari, on va bien voir. Hein. Mais je pense que le fait de pas l'avoir annoncé tout de suite, tu as tout à fait raison. Je pense que c'est une erreur.
Je pense que c'est une erreur, c'est une erreur. Et je pense encore une fois que même dans les cabinets ministériels aujourd'hui, il y a des personnes qui parlent pour nous et qui savent pas qu'on existe des postes. Ils savent même pas qu'on existe. Mmh. On nous montre toujours quand ça va mal. Et c'est ça qui est pas bon.
Quand moi, vous faites le constat,
beaucoup d'acteurs, Gilali à Toulouse par exemple,
tout à fait.
Je suis sûr que dans les cabinets ministériels, on ne sait même pas que ces gens-là existent. Et c'est pas normal.
Alors dites-moi Stéphane Métherfi, qu'est-ce que vous voulez lancer justement dans cet élan des législatives ? Qu'est-ce que vous avez envie de lancer comme message ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire comme mot à tous celles et ceux qui vous écoutent ? Et ils sont nombreux ce soir justement dans les quartiers de France.
Bah, moi je pense qu'on a perdu la ferveur de on en parle souvent, mais on a perdu la ferveur de la France de 98, la France multiraciale, la diversité, tout cet engouement entre guillemets où on appartenait à ce pays. Moi, je suis fier d'être français. Voilà, je suis fier d'être français. Je suis fier de mon pays. Je reviens de l'étranger actuellement, d'Afrique. On est mal vu. On dit, mais c'est, qu'est-ce qui se passe dans ce pays?
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Donc, moi, qu'est-ce que je lance aujourd'hui? C'est évidemment, c'est la première des choses, ça a toujours été le travail. Je me rappelle qu'en 94, la première convention qu'on a signée, c'était pour des stages dans les entreprises. Et on avait signé ça à l'époque avec Père Descartes. Vous imaginez? On parlait de stages. Aujourd'hui, la problématique, c'est qu'il y a tellement de dispositifs qu'on est complètement paumé. Donc notre objectif à nous, il est de remettre les pendules à l'heure vis-à-vis des dispositifs existants. C'est pour ça qu'on lance l'action Département de Job. On va l'expérimenter ici à Rouen, dans notre agglomération, dans notre métropole. Voilà, et le but, c'est d'essayer d'essaimer et que ça fonctionne dans d'autres départements, dans d'autres régions, dans d'autres quartiers.
Quelle implication vous voulez avoir ou quelle implication vous comptez évidemment donner à cette élection législative, notamment? Je sais que vous connaissez des humoristes, des chanteurs, des sportifs, etc. Est-ce que vous voulez les embarquer avec vous, justement?
Alors, il y en a beaucoup qui jouent le jeu déjà. Hein. Dernièrement, je prends Luis Fernandez qui est venu ici, qui a pris une journée. Il a pris toute la journée.
Quand vous dites ici, c'est à Rouen.
À Rouen, ouais.
On est très écouté d'ailleurs à Rouen.
Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs comme Paty, comme Solar ou d'autres, ou des sportifs comme Nicolas Nelka, qui est encore dernièrement, qui ont envie de redonner d'où là ils sont venus. Parce que c'est important, c'est peut-être là.
Oui.
On nous parle de modèles qui sont inatteignables. Donc je pense qu'aujourd'hui, franchement, tout le travail qui est mené et qu'on a mené aussi avec Renaud Pomar ici présent, de ce lien social, de cette lumière tenue dans ces...
C'est ce que vous voulez retrouver d'ailleurs, hein, retrouver le lien social.
C'est un gros chantier. Exactement, quand même. Ouais. C'est un gros chantier, ouais. Parce que parler de job, c'est un gros chantier ce qu'il lance là. Moi, je n'oserais pas. Parce que je n'avais pas les compétences déjà. Je suis là pour l'animation et animer les quartiers et faire tout ce que je peux pour faire du lien social, c'est-à-dire entre les institutions, la police et les jeunes, etc. Donc ça, je sais bien faire. Mais c'est vrai que ce chantier qu'il veut démarrer est compliqué parce que au-delà de trouver des jobs aux gamins, au-delà de trouver des formations, il faut en même temps les prendre en charge. Et ce qu'on parle souvent dans l'armée, c'est le savoir-être, etc. C'est-à-dire il faut les prendre, les capter ces gamins, et puis les mettre dans les formater, qu'on puisse les amener après directement à l'emploi ou carrément en premier dans une formation. Et ça, c'est quand même compliqué. C'est valeureux ce qu'il veut faire, très sincèrement.
Stéphane Métarfi,
oui.
Dites-moi, dernier mot, c'est les ceux qui vous écoutent. Qu'est-ce que vous voulez lancer comme message? Parce que je vous sens préoccupé quand même tout de même.
Alors, moi, le message, c'est un message d'inquiétude à la fois que j'ai, mais d'espoir, parce que je crois toujours au combat et je pense que nos valeurs, on est tout simplement positif et on lâche rien. C'est profiter que prochainement, il va y avoir quand même, notre pays organise quand même les Jeux Olympiques. On est en 2022, on a 2 ans pour les préparer. Et la France, c'est pas que le 93. La France, c'est toutes les banlieues, c'est toute la jeunesse. La jeunesse aussi, c'est campagne. Et la fierté d'appartenir à ce pays et d'être un pays organisateur, moi, j'ai envie de lancer une tournée, entre guillemets, avec Bruno, avec des artistes, avec des acteurs, avec des policiers, pour aller dans ces grandes villes avec des personnalités, aller échanger directement avec les personnes concernées et les personnes qui font du bien dans ces quartiers-là, qu'il faut mettre en avant.
Les valoriser.
Vous voulez démarrer quand cette tournée?
On attend d'être écouté, hein, comme je vous ai dit. Il n'y a pas de ministère de la ville, donc on va, je ne sais pas à qui s'adresser, alors on parle.
Bah, je ferai remonter des messages, Stéphane, t'inquiète pas.
Ouais, on fera remonter, mais je pense que monsieur le président, j'espère qu'il nous écoute. Et, j'interpelle pas, il faut toujours interpeller de bon Dieu, que c'est simple. Parce que moi, par exemple, j'ai attendu 1 an et demi pour avoir une subvention. Je l'ai eu, la subvention. Mais 1 an et demi. Il n'est pas normal.
Ouais.
Il n'est pas normal. 30 ans de travail. C'est pas possible.
Alors que certaines associations qui font pas tout ce qu'on peut imaginer en termes de travail de terrain se gavent encore de subventions, et ça c'est pas normal. Elles sont très connues en plus, et ça c'est lamentable.
Exactement. Et c'est pour ça qu'on en a un petit peu marre. C'est pas de l'injustice, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais franchement, si on est encore là, moi ce qui m'inquiète, c'est la jeunesse derrière. Elle veut plus s'investir dans la vie associative comme nous on fait investir. Et ça m'inquiète de trouver la relève. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à une jeunesse, même avec leur téléphone aujourd'hui, ils font accès à tout. Ils s'en foutent, quoi. Ils s'en foutent.
Eh bien, merci. Voilà.
C'est de remettre les pendules à l'heure et de reprendre du courage. Je lâche rien, comme pour tous. Merci Adeline, en tout cas, de ce témoignage que j'ai pu apporter ce soir. J'espère que nos politiques, nos élus et tous ceux qui font campagne aujourd'hui ne font pas que campagne et qu'ils soient toujours présents après la campagne.
Merci Stéphane Metterfi, on l'aura noté. Plusieurs actus, notamment avec le job qui compte mettre en place, et puis débarquement jeune, n'oublions pas le talent des cités, mais n'oublions pas aussi la nuit des trophées. Stéphane Metterfi, bon courage et merci à vous. On se retrouve avec Bruno Pomard, Philippe Nadji-Bouriaki, et on lance les sujets, mais également aussi vous aussi, au 01 53 48 3000. À tout de suite, première pause pub.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Et les informés 19h20, si vous venez de le retrouver, c'est avec Bruno Pomard, ancien du Raid, mais également Raid Aventure, chroniqueur, télévision, radio, mais également aussi face à lui, Philippe Nadji-Bouriaki, conseiller régional de Europe, écologie, tout court. Voilà messieurs, 01 53 48 3000, on vous attend, jingle.
53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Et le face-à-face, c'est parti.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face, Bruno Pomard, je voudrais vous entendre sur les incidents au Stade de France. Ça ne fait que enfler. Gérard Darmanin qui regrette le fiasco et rejette la faute sur les faux billets de la tribune britannique. Évidemment, beaucoup, on parle de 2800 faux billets qui ont été scannés. Mais c'est énorme, inédit, ça, jamais vu.
Alors c'est inédit et puis ça a déstabilisé, je dirais, l'organisation générale et en particulier ceux qui assurent et qui font le filtre au centre du Stade de France. Ça, c'est évident que ça a été...
Mais comment ça a entaché l'image de la France mondialement, ça, Bruno Pomard?
Vous avez raison.
Vous, ancien policier.
Eh oui, mais écoutez, ça fait partie. On a eu l'Euro 2016, ça s'est bien passé. Il y a plein de choses qui se passent bien aussi. On a eu des événements mondiaux qui se passent dans notre pays et qui se passent bien là.
Mais là, c'est un fiasco, là, Bruno Pomard.
Non, ne soyons pas si durs, Adil, il ne faut pas être si dur.
Mais non, arrêtez, Bruno Pomard, arrêtez.
Non, un fiasco, non. Parce que d'abord, je vous rappelle, il y a eu des interpellations. Il n'y a pas eu de faits graves. On aurait pu penser à beaucoup de blessés, voire des morts, parce que c'est arrivé malheureusement sur des événements comme ça. Donc je pense qu'il faut faire le bilan de tout ça, ne pas aller trop vite en besogne. Je pense que Darmanin est dans sa position de protéger ses forces de l'ordre, parce que, encore une fois, ce sont eux qui sont au devant de la scène, là. On le voit encore une fois, hein. On peut critiquer monsieur Lallemand, mais en attendant, ce sont les forces de l'ordre qui ont dû s'adapter avec beaucoup de difficultés sur le terrain. Ça, c'est un premier élément à prendre en considération, qui ont dû renforcer le personnel du Stade de France. Mais là où j'en veux beaucoup, moi, c'est aux organisateurs. Parce que moi, je suis organisateur des...
On parle de 30 000 personnes qui sont sans billets, quand même. Ou avec un faux billet.
Oui, ou avec des faux billets, ou sans
Bruno
billets.
Bruno Pomard, pardonnez-moi, mais non. Ça, c'est quand même du jamais vu.
Vous avez raison. Mais
30 000, on parle pas de 500.
Mais je suis d'accord avec vous. Mais
la faute incombe
à l'organisation. Le Stade de France organise...
Chacun se renvoie la balle, Bruno Pomard.
Non, mais moi je suis clair.
On dit un coup c'est Gérard Darmanin, l'autre coup c'est les organisateurs, l'UEFA. L'autre coup c'est les jeunes, l'autre coup c'est les supporters.
L'UEFA va pouvoir sûrement transformer sa façon de faire la vente des billets, par exemple peut-être par téléphone, etc. Tout le monde a des smartphones. Peut-être il faut annuler complètement et qu'il n'y ait plus un seul billet. Mais l'UEFA, comme les organisateurs du Stade de France, sont les responsables. Moi, je suis organisateur depuis 20 ans, Adil, d'événements sportifs. La préfecture me demande un cahier des charges.
Mais comment vous l'expliquez, ces scènes de chaos, alors?
Non, mais attendez, laissez-moi finir.
Mais je vous laisse finir, allez-y.
Vous avez, le Stade de France doit, l'organisateur, l'UEFA, doit donner un cahier des charges complet à la préfecture de police, au ministère de l'Intérieur.
Oui.
Ça se passe comme ça. Il y a quand même le Stade de France et l'UEFA en particulier qui a failli sur des questions de filtrage, de préfiltrage et tout un tas de choses qu'on a bien vu à l'antenne en direct. Le résultat, ça a fait que les policiers ont dû non seulement assumer les supporters, et effectivement il y a eu des violences évidentes. Je vous rappelle que les violences étaient que sur le côté
anglais. Sauf que
anglais,
ces violences...
Pas espagnoles, hein. Soyons précis.
Oui.
Ça, c'est un premier élément.
Soyons précis.
Deuxième élément, et là, on va pas jeter l'opprobre sur les quartiers, parce que vous savez très bien mon engagement et que je soutiens beaucoup la jeunesse des quartiers, mais il y a eu, malgré ce que certaines disent, je pense à M. Mélenchon et à d'autres qui systématiquement trouvent des excuses, il y a eu une horde de 200 à 300 jeunes voyous de toute l'île de France. Ils sont pas cantonnés au 93. Et d'ailleurs, le maire du 93 lui-même l'a dit. Donc, des voyous, ça reste des voyous. Mais c'est 300. C'est pas l'ensemble de la jeunesse de notre pays et des banlieues. Il faut être précis là-dessus parce que moi, j'aime pas stigmatiser cette jeunesse des banlieues qui souffre déjà. Donc, soyons objectifs. Mais ces voyous-là, bon, ont posé de gros dégâts et de grosses problématiques. Moi, j'ai eu des retours des mecs de terrain, des policiers de terrain. Je vous l'invente pas en ayant lu
Ils ont dit quoi?
Que c'était lamentable. Que les mecs dépouillaient les supporters et autres. Voilà. Et ça,
ça veut dire quoi, dépouiller, voler,
C'est piquer les portefeuilles, piquer les téléphones, piquer tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, les groupes d'intervention étaient là.
Je veux bien qu'on prenne des auditeurs 0153-48-3000, ça m'intéresse aussi.
La direction.
Si vous étiez au Stade de France, ça nous intéresse aussi aux alentours.
La direction de l'ordre public.
Donc, voler quoi? J'ai entendu dire, pardonnez-moi, c'est intéressant ce que vous dites, Bruno Pomard. Incident au Stade de France, ces voyous dont vous, évidemment, vous parlez, ont un peu gâché la fête du football européen, puisqu'ils disent qu'il y a eu des témoignages, les gens se sont fait voler leur téléphone, leur montre, leur.
Bien sûr, ça n'a pas été inventé, ça, hein. Le ministère de l'Intérieur n'a pas inventé. Moi, je vous dis, c'est factuel. C'est des policiers qui sont en contact, des compagnies d'intervention, des BAC qui étaient présents. Alors, est-ce que le système.
Mais c'est pas eux le problème.
Non,
c'est ça pas ces voyous-là.
Non, mais ça, c'est l'accumulation. C'est la loi de l'emmerdement maximum.
C'est les supporters anglais, on parle.
On commence avec les billets, on commence aussi avec la RATP, les syndicats RATP qui font la grève le jour de l'événement. Mais c'est ils sont meurtriers, ces gens-là, ils sont dangereux. Mais oui, c'est ça. Les syndicats, c'est une honte. Ça, c'est un élément. Il y a eu cette.
On peut pas dire ça.
Ben, mais
Philippe Nadjiboriaki.
Mon commandant.
Salon, le débat. Et après, j'irai du côté de Tremblay pour accueillir Karim. Allez-y. Allez-y, Philippe Nadjiboriaki.
L'alarme sociale a été déposée 10 jours avant. L'alarme sociale a été déposée bien 10 jours en avant. Donc, la RATP, la direction de la RATP avait tout à loisir de pouvoir intervenir et prévenir et régler la situation, parce qu'on ne pose pas une grève comme ça. La grève, de toute façon, en plus, ça a été sur 3 jours, donc c'était pas que le jour concerné. Alors, il y a certaines lignes, comme la ligne B du RER, qui est plus suivie parce que les gens sont beaucoup plus engagés. Et il faut savoir pourquoi ils ont posé des grèves. C'est parce qu'on leur demande d'augmenter leur amplitude du temps de travail. Et je rappelle que les mecs, c'est pas une bétaillère qu'ils ont derrière, c'est des êtres humains. Et tout signe de fatigue peut entraîner, on a vu des drames aussi horribles les uns que les autres. Donc ça, c'est un premier point. Après, je rejoins votre position. C'est vrai, Adil, il y a un enchaînement de plusieurs facteurs et il faut que personne ne rejette la balle sur l'autre et tout le monde prenne sa responsabilité. Il y a des gens, moi tout à l'heure, Majid m'a appelé et on a vu Majid Touami qui est un organisateur aussi de sécurité. Les gens qui font la sécurité se connaissent et se parlent mutuellement.
On voit très bien qui c'est. On le salue d'ailleurs.
Il y a des hordes d'Anglais qui ont traversé la Manche en Zodiac. Oui. En Zodiac, qui ont payé des passeurs, les mêmes qui payent pour les migrants, pour venir Zodiac. Parce qu'il n'y avait plus de place dans les ferries, il n'y avait plus de place dans les avions, il n'y avait plus de place dans
tout
le.
Tout ça, on n'a pas dit, hein.
Non, mais c'est vrai. Et ça, faut le dire. Donc, lorsqu'on voit, ces dizaines de milliers d'Anglais qui sont venus avec des faux billets, il faut rappeler que les billets, normalement, devaient être que numériques et c'est à la demande du club de Liverpool que l'UEFA a cédé. Et je suis d'accord avec toi, Bruno. C'est de la responsabilité de l'UEFA qui a délégué, l'organisation à la Fédération Française de Football.
Mais on parle de 2000, on parle de 3000.
Mais non, mais bien plus que ça. Moi, je voyais des billets être vendus.
On parle même de 30 000. Alors.
De 30 000, tout à fait, c'est ça. C'est ça. Et on voit ce qui s'est passé à Nation. Là, on réagit effectivement à chaud parce qu'il y a une émotion et on comprend lorsqu'il y a des familles qui se retrouvent gazées par la police. Il y avait des gamins, il y avait un manque de discernement, mais parce qu'ils ont été débordés. Ils ont vraiment été débordés.
Mais ça n'a pas été général,
Bruno Pomard.
Soyons précis.
Ça a été
accentué.
Car Adil, vous me dites, c'est un fiasco. Moi, je vous dis non, c'est pas un fiasco.
Mais je pose la question.
Mais non. Si vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez dit en début de l'émission.
Oui, je vous ai dit, je pose la question. Je dis, est-ce que c'est
un fiasco? Il y a des manquements, c'est certain.
Mais attendez, les autorités. Comment? Attendez, franchement, je vous dis, pourquoi on parle de fiasco? Toute la presse argumente que les autorités, pour expliquer de ce fiasco de la finale de la Ligue des Champions, c'est une première mondiale. Ça n'est jamais arrivé. C'est pour ça que je vous pose. D'abord, le match a démarré en retard, 30 minutes de retard.
C'est normal avec les problématiques.
Ensuite, 30 000. On parle de plus de 28 000. Spectateurs anglais qui n'ont pas pu franchir, évidemment, avec des vrais billets, qui n'ont pas pu assister au match. Et on parle de stadiers qui étaient en sous-effectif.
Il fallait sécuriser.
On parle de beaucoup de choses.
Vous parlez d'organisation de l'UEFA là, quand vous dites stadiers en sous-nombre. C'est pour ça que les policiers ont dû venir en renfort. Et encore une fois, c'est une faute collective. Moi, je persiste et signe
sur
les informations que j'ai, qui sont des informations.
Rejeter la faute uniquement sur le ministre de l'Intérieur, sur Darmanin, sur la force de police, c'est une erreur, c'est une grave erreur. Parce que ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils ont eu à ce moment-là.
T'as beaucoup sur Darmanin en ce moment.
Non, mais là-dessus, oui, mais parce que ça, c'est l'opposition qui est en train de surfer sur les élections législatives et c'est honteux et scandaleux et c'est pas digne lorsqu'on veut être un élu de la République. Moi, vous connaissez mon attachement, je suis pas un proche de Darmanin, je suis pas un proche de Didier Lallement et je continue à dire que sur ce coup-là, il n'y a pas eu un seul mort, il n'y a pas eu de blessés graves. Moi, je me rappelle du Hezel, je me rappelle qu'à chaque fois que les Anglais se déplacent, les
hooligans. Il y a des scènes de
chaos. Non, c'est pas des scènes de chaos.
Le tour du monde.
Mais non, tu peux pas dire ça. Il y a quelques scènes compliquées lorsqu'il y a une situation de goulot d'étranglement, parce que lorsque tu arrives et que ça fait une sorte d'entonnoir, bah forcément, ça pousse un petit peu et ceux qui ont un vrai billet, qui sont au milieu de ceux qui n'ont pas de faux billet, bah ils peuvent pas accéder jusqu'au tourniquet. Il y a quelques dizaines de personnes.
Oui, Adil et Bruno Pomard.
L'événement, c'était pas que le Stade de France, je vous rappelle. C'était plusieurs jours avant. Les Champs-Élysées ont été quadrillés dans tous les sens. Il n'y a pas eu de débordement. Les fans zones se sont très bien passées.
Vous avez raison.
Et oui, non, mais il faut être factuel.
Factuel.
C'est clair. Et on a évidemment fait un focus sur ce.
Bien sûr. Non, mais c'est normal. Non, mais c'est normal qu'on fasse un focus là-dessus, parce que c'est vrai que tout le monde en a parlé, etc.
Mais soyons pas assassins vis-à-vis de.
Mais en même temps,
moi je trouve que je veux qu'on aille direction le Standard, parce que ça m'intéresse d'avoir l'avis des auditeurs. Tiens, Karim de Tremblay. Karim, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous.
Bienvenue. On vous écoute. Quel est votre point de vue concernant ces incidents au Stade de France, Karim ?
Disons que je suis un peu déçu de certaines réflexions là, que je viens d'entendre.
Oui.
J'ai l'impression que, en fin de compte, on essaye de décharger la responsabilité des autorités, de la police en particulier.
Oui. Bruno Pomard,
Pour moi, ce que j'en ai vu par rapport aux images, etc. Il y a une grosse faute quand même, comme d'habitude, des autorités, enfin de la police en tout cas,
mais pas du tout.
Du préfet allemand certainement, comme il a la coutume de le faire. Parce que là, ça s'est vu, ça s'est bien vu. Il y a vraiment, quand on voit certaines images de supporters avec des billets qui brandissent leurs billets pour expliquer aux forces de l'ordre. Ils ont des billets valables, et tout de suite on les gagne.
C'est pas si c'est bien.
Karim, je cherche à comprendre. Non, mais laissez-moi finir, justement.
Laissez-le finir.
On les gagne tout de suite. On n'essaye même pas de. Parce que je pense qu'ils parlent même pas anglais, les forces de police. Je veux dire, là, ça montre bien l'état de la police aujourd'hui en France.
Karim, justement, il ne faut pas confondre. Ce n'est pas la police. Non, mais attends, justement,
Philippe, tu pourras parler si tu veux. C'est à la radio, il n'y a pas de souci, tu peux parler comme tu veux.
Pardon, Karim.
Moi, je suis au téléphone, voilà, je t'explique juste ce que je pense. Voilà. Donc, moi, c'est significatif de l'état de. Enfin, l'état d'esprit des policiers en France. Et c'est tout ce que je retiens. Il y a eu des ratés du FA, etc., je veux bien, mais il y a des ratés à chaque fois. Il y a souvent des ratés dans les finales, et ça se passe jamais comme ça ailleurs. Ils ne sont jamais gazés, les gens.
Ouais.
C'est ce que je répète, mais en tout cas, c'est significatif de l'état d'esprit de la police aujourd'hui en France.
Merci. Karim de Tremblay, merci. Votre regard et votre. Attendez, s'il vous plaît. Votre point de vue est extrêmement important. D'abord, dans l'ordre, je vais laisser. On a un membre du RAID. Alors, attendez, je vais vous laisser répondre. Ensuite, Philippe Nadjibouriaki. Sauf que je ne veux pas me mettre en retard. Le Quoi de Neuf, tout de suite, avec Faïza Ben Mohamed. C'est parti.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Faïza Ben Mohamed, bonsoir.
Bonsoir Adil, bonsoir à tous.
Bienvenue, journaliste indépendante, ce qui secoue justement les réseaux sociaux. Ce soir, vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur sur ce journaliste tué, évidemment, en Ukraine. On vous écoute, à vous la parole, Faïza Ben Mohamed.
Oui, alors exactement. Du coup, je ne vais pas utiliser donc mon Quoi de Neuf pour un sujet classique, mais plutôt pour vous parler du métier de journaliste, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est important plus que jamais. Vous venez de dire, Adil, hier, Frédéric Leclerimov, journaliste de BFM TV, a été tué en Ukraine alors qu'il couvrait un convoi humanitaire. Il est donc mort à 32 ans en faisant son métier, celui de nous informer, de vous informer, alors que la guerre est de retour depuis le 24 février, vous le savez, sur le sol européen. Ce drame, il intervient, vous pensez venir aussi, quelques semaines après celui de Shirin Abu Akleh, journaliste d'Al Jazeera, qui a été elle aussi tuée en Cisjordanie occupée, alors
que c'était
une opération de l'armée israélienne. Et si, à notre époque, être journaliste, vous le savez, Adil, mieux que personne, c'est beaucoup être traité, alors de plein de mots, hein, journalope, journaleuse, menteuse, haineuse, être ciblé, parce que parfois on donne un peu trop notre avis. Et je voudrais simplement rappeler une chose. C'est que notre mission première, c'est celle d'informer et de permettre aux spectateurs ou aux auditeurs de voir le monde tel qu'il est. Et qu'on soit d'accord ou pas sur la manière dont certains racontent l'actualité, je voulais simplement rendre hommage à tous nos confrères tués, micro ou caméra à la main, et vous demander de vous souvenir collectivement, de nous souvenir collectivement, qu'ils vont tout laisser derrière eux, leur famille, leur vie, leur confort, pour qu'on puisse avoir sur nos écrans, dans nos postes de radio, dans nos voitures, des images et des faits qui relatent la réalité et des vrais témoignages de terrain. En 2022, des journalistes meurent au combat parce que c'est bien devenu un combat que d'informer.
Faïza Ben Mohamed, vous avez raison de le rappeler et je vous dis bravo pour ce billet d'humeur. Faïza Ben Mohamed, c'est très juste. Il faut qu'on. Allô ?
Oui.
Oui. Merci à vous pour ce billet d'humeur, merci le Quoi de Neuf. Effectivement, il faut continuer de rendre hommage à ce journaliste tué.
Qui nous informe. Alors,
absolument, qui nous informe. Faïza Ben Mohamed, à la semaine prochaine avec autant de plaisir.
Merci beaucoup, à la semaine prochaine.
Prenez soin de vous, 19h34, on lance la pub, la dernière tranche pub. Et je vous redonne la parole, justement, mon cher Bruno Pomar, Philippe Nadji-Bouriaki, pour répondre à Karim. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Ça fait beaucoup réagir. 01 53 48 3000, les incidents au Stade de France. On en parle. 19h42 avec Bruno Pomar, ancien du RAID, mais également aussi Philippe Nadji-Bouriaki, conseiller régional écologiste. Messieurs, tout de suite, avant de. Évidemment, je voudrais. Karim s'est exprimé de Tremblay. D'abord, vous, ancien membre du RAID. Vous lui répondez quoi à Karim ?
Moi, je regrette que Karim pense que la police peut tout régler, parce que c'est un peu ce que je résume de ce qu'il a pu dire. Donc, c'est un élément qui n'a peut-être pas en main, mais une organisation d'événements comme ça, c'est l'UEFA, avec l'ensemble des acteurs privés qui travaillent autour, et la police qui vient ensuite en second rideau, je dirais, pour assurer la sécurité à deux niveaux, avec la DOPC, pour le premier niveau, c'est-à-dire la direction de l'ordre public qui était en direct sur les événements à proprement parler, c'est-à-dire Fanzone et le stade. Ensuite, la DESPAP, qui représente un peu les commissariats, si vous voulez, de Paris, qui était en charge de faire tout le bouclage autour, Champs-Élysées, etc. Donc il y avait un véritable travail de fait avec mobilisation des braves, mobilisation des compagnies d'intervention. Il y avait un gros dispositif qui était un dispositif, et c'est là où on peut dire effectivement il y a peut-être un manque d'appréciation de la part de la préfecture de police, mais les effectifs étaient en nombre. C'est un dispositif qui était plus prévu pour du maintien de l'ordre, parce qu'on avait eu peur d'affrontements entre les Anglais et les supporters anglais et les supporters espagnols,
exact.
Style hooligan. Donc effectivement, il y avait beaucoup effectifs de CRS et de gendarmes mobiles qui étaient positionnés en statique. Et effectivement, quand on veut faire bouger des éléments comme ça, c'est pas du tout évident. Ce qui me fait dire aussi que je pense que sur des événements comme ça, il faut avoir beaucoup d'éléments très mobiles. Je pense à des policiers en civil en grand nombre, des bacs en civil, des compagnies d'intervention, etc., pour éviter ce qu'on a vu, et on le disait tout à l'heure, des casses dans les parkings, des voitures, des personnes qui sont venues, du dépouillage comme ça a été fait sur des personnes, etc. Tout ça devait être réprimé durement, parce que c'est pas normal pour un événement comme ça, effectivement, que ça se passe. Et encore une fois, je précise bien, quand on parle de voyous, parce que ce sont des voyous, 200-300 voyous, ce ne sont pas la jeunesse de nos quartiers de façon générale. Soyons clairs là-dessus, parce que j'aime pas faire l'amalgame.
Philippe Nadji-Bouriaki, vous vouliez répondre justement à Karim notamment.
Oui, Karim, bon, déjà, pardon, mais c'est vrai que je l'ai interrompu plusieurs fois, mais je voulais vraiment dire à un moment donné que c'était pas aux policiers de contrôler les billets, c'était
à
l'UFA via les stadiers, etc. Ils avaient un stylo marqueur
chimique
pour voir si les billets étaient vrais ou faux. Et d'ailleurs, il y a même eu un souci. À un moment donné, ils ont dû appeler les responsables de l'organisation en disant c'est pas possible, tous les billets qu'on est en train de contrôler sont tous faux. Ça se trouve, il y a un problème avec notre marqueur. Ils pensaient carrément que c'était le marqueur qui merdait. Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là que le dispositif a été un petit peu plus léger en laissant les gens passer en se disant.
Ah, ils pensaient que le marqueur, ça
faisait
du marqueur.
T'imagines, t'en fais une quarantaine d'affilée.
Il a raison. Et il faut se préciser d'ailleurs que comme il y a eu ce surplus de billets, ça a été annulé entre l'UEFA et la Fédération Française de Football, ça a été fait sur un papier qui ne correspond pas au papier habituel qu'on utilise pour ce type de billets. Ça, c'est les informations que j'ai eues. Et effectivement, sûrement, les stylos chimiques ne fonctionnaient pas. Voilà. Vous voyez, l'accumulation, c'est la loi d'emmerdement maximum, c'est le cas de dire. C'est-à-dire qu'on a ce problème de RATP qui, évidemment, ferme des accès. Ça, c'est une première chose. Le règlement des fameux billets qu'il fallait contrôler, la horde de voyous qui sont venus foutre le bazar. Enfin bref, voilà, quand vous cumulez tout ça, encore une fois, qui se retrouve au front, ce sont nos policiers.
Non mais les pauvres supporters anglais, je parle pas de ceux qui sont venus foutre la zizanie, c'était plutôt sur Nation que Stade de France.
Oui.
C'est que t'as les chiffres, on dit 30 000 faux billets, on n'en est pas loin. Ah ouais. Il y a des gens qui ont acheté des billets, mais une blinde, des 1500, 2500,
oui, 3000 on parle
euros,
de ça.
Ouais. 3000 euros. Moi, j'ai un mec, il était prêt à me l'acheter, 4500 euros.
Et alors?
Mais j'avais pas de billet, c'est ce que j'aurais vendu. J'ai dit à un moment donné, putain, j'ai un billet, j'aime pas le foot, qu'est-ce que je fais? On m'a dit, on te l'achète.
Oui, mais c'était
500 euros, t'imagines? Et le mec, il me dit, moi, je vais le revendre, je vais en faire encore une culbute. Donc, t'as des gens qui ont acheté de bonne foi des faux billets, les pauvres, et ils arrivent, on leur dit, mais c'est pas bon. Donc, forcément, l'excitation, ça, la chaleur, plus le fait de marcher 3 heures, parce qu'il y en a, ils ont marché 3 heures avant d'arriver au Stade de France.
Ouais,
les gens,
évidemment,
ils sont excédés. Donc, il faut complètement tout revoir. Je crois qu'il faut laisser passer quelques jours, que l'enquête soit.
Vous m'aviez parlé d'une note tout à l'heure.
Oui, il y a une note des renseignements qui ont dit qu'il allait avoir une horde de supporters plus qu'on nombre, qui parlaient déjà de ces fameux faux billets.
Bon, donc ils étaient au courant alors.
Il y a un dysfonctionnement à ce moment-là.
Mais c'est pour ça, Nadjid, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut bien préciser les informations. Évidemment, les services de renseignement les ont, la police nationale les a. C'est pour ça que le dispositif, ce que je disais tout à l'heure, a été fait plus calqué sur du maintien de l'ordre à proprement parler que sur de la sauterie sur des violences urbaines. Vous voyez, c'est pas ça. Du tout les mêmes schémas de travail pour nos forces de l'ordre. Et c'est pour ça que voilà, donc on peut pas acculer comme l'a fait notre ami Karim tout à l'heure la police. Évidemment.
Entre groupes,
on peut pas jeter l'opprobre sur la police. Encore une fois, vous allez me dire, parce que j'ai fait 36 ans dans cette maison, je protège les policiers. Pas du tout. On reconnaît nos erreurs quand elles sont là. Effectivement, ça a été très très compliqué.
Franchement, quand même, Adil, faut pas dédouaner les policiers ou Darmanin ou quoi que ce soit. C'est que les incidents étaient du côté anglais. Il y a pas eu d'incident.
Exactement, tu as raison.
Donc, force est de constater que, et c'est pas la première fois, moi je me rappelle le Ezel, ça m'a encore marqué, tu vois, j'y pense encore.
Alors, qu'est-ce qui risque de se passer pour ce vendredi, puisqu'il y a un grand soir, c'est France-Danemark, justement, au Stade de France, est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, d'incident ce vendredi, puisque la RATP, d'ores et déjà, a annoncé un nouvel appel à la grève.
Eh ben, c'est bien qu'il continue comme ça.
Sur le RERB.
Bah écoutez, c'est un manque de professionnalisme total, très sincèrement. Moi, j'adhère aux revendications des employés de la RATP, etc. Il n'y a pas de souci. À un moment donné, il faut du bon sens. Si on veut éviter ce qu'on a vu là, et certains se félicitaient même d'avoir réussi une manif en faisant grève, je trouve que c'est dangereux, c'est irresponsable.
Moi, Philippe Nadjiboriaki, nouvel appel à la grève,
j'ai toujours eu un faible pour mes anciens collègues, puisque moi j'étais agent à la RATP, j'étais machiniste receveur pendant 9 ans, donc je connais très bien les difficultés que rencontrent les collègues à la RATP.
Sûrement. Sauf que là, il y a France-Danemark.
Non, hormis France-Danemark, moi je pense qu'après les événements qu'on a vécu, là, je pense pas judicieux de faire l'appel à la grève à vendredi.
Sauf que là, c'est officiel ce que vous
avez. Je sais bien, mais ils peuvent lever l'appel à la grève après ce qui s'est passé, vu comment plus certains sont en train d'orienter sur les fautes et la responsabilité de les collègues à la RATP. Moi, je les invite sérieusement à montrer que en situation de catastrophe, les machinistes, les gens de DF, GDF ont toujours répondu présent.
Est-ce qu'on peut craindre d'autres incidents justement au Stade de France ce vendredi?
Toujours sur ce niveau d'événements, évidemment, et en plus on touche une discipline, il faut quand même le dire, le football qui malheureusement draine une certaine population, il faut être clair, on le voit pas au rugby, excusez-moi, mais au rugby ça n'arrive pas, il y avait un match à Marseille, la Coupe d'Europe, c'est parfaitement bien passé, donc je pense qu'il faut prendre en compte cette affaire de violence urbaine et de cette minorité de la jeunesse qui ne vient pas que du 9-3, hein. Faut pas encore stigmatiser toujours ce département qui est sans arrêt mis en lumière, malheureusement pas dans le bon sens. Je crois qu'il faut travailler sur ces problématiques de violence urbaine à travers ces groupuscules de jeunes ultra-violents qui viennent pour foutre le bazar, tout simplement. Je pense que tout ça se passera bien après.
Dernier sujet avant de rendre l'antenne, je voudrais vous entendre sur le dernier sujet qui a retenu notre attention, justement sur le danger. On parle d'un danger NUP. Le danger NUP, c'est quoi? C'est sa percée? C'est ce mariage forcé à gauche? Que peut-on dire alors qu'on est à quelques jours de ce premier tour, Bruno Pommard?
Ben la démagogie du programme des gens de la NUP qui sont en train d'endormir des électeurs, de promettre tout et n'importe quoi, la retraite à 60 ans, et puis il faut être logique à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence.
On vend du rêve.
Mais tout est bon quand il s'agit de se faire élire, tout est bon, parce qu'après on ne tient pas parole.
On vend du rêve.
Ben on vend totalement du rêve. Ça fait 45 ans d'ailleurs que M. Mélenchon nous vend du rêve. Moi je l'ai connu dans l'Essonne comme conseiller départemental. Il n'a fait qu'une vie de militant et une vie à chercher des mandats électoraux. Il ne vit que de ça, il n'a jamais travaillé de sa vie. Bon, voilà, quand on prend cet exemple-là...
Ça y va fort,
qu'est-ce que je vous dise, c'est la vérité. Alors, il y en a d'autres à droite qui font pareil, etc. Mais pour parler de la NUP, effectivement, je pense que c'est pas cohérent. Et lorsqu'on voit, effectivement, le comportement de la NUP, et en particulier, je parle de la France insoumise, Parce que même s'il y a eu des ralliements écologiques, PS, etc. Bon, écoutez, c'est leur problème. C'est leur petite tambouille interne. Mais tout ça pour des mandats, encore une fois, hein, pour récupérer des mandats. Je pense que très sincèrement, ils se foutent des Français. Beaucoup de monde se fout des Français chez les électeurs, chez les candidats. Et moi, je le dis en tant que maire du rural. Voilà, j'aurais pu me proposer pour partir député. Je trouve qu'il faut être sérieux. Il faut arrêter d'endormir les Français. Et je pense que ce serait pas une bonne chose. Néanmoins, je pense qu'une dose de proportionnel serait nécessaire quand on voit quand même qu'il y a, et je suis pas d'accord du tout avec les, vous l'avez bien vu avec l'ANUPS, comme le Rassemblement National, 10 millions, plus de 10 millions d'électeurs qui votent pour ces gens-là. Bon, écoutez bien leur empreinte. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas normal qu'ils soient pas représentés à l'Assemblée nationale. Voilà. C'est peut-être un peu paradoxal ou contradictoire par rapport à ce que je viens de dire, mais c'est la vérité. Je pense que on a un problème de démocratie.
Philippe Nadjiboyaki.
Moi, j'ai jamais été favorable à cet accord de l'ANUPS parce qu'il y a des mariages contre nature. Hein, quand je vois ce que pense le PC avec Europe Écologie Les Verts, ce que je pense, ce que pensait proposer le PS avec la France Insoumise. Donc, il faut appeler un chat à chat. Il y a un accord technique qui permettra d'avoir des députés. Et à ce moment-là, en le disant comme ça, c'est plus honnête. Mais force est de constater que il y a des propositions qui sont intéressantes dans le programme. Je suis pas d'accord avec tout le programme, mais il y a des choses qui sont vraiment intéressantes et ça permettrait aussi d'avoir un contre-pouvoir à l'Assemblée nationale. Moi, je soutiens pas l'ANUPS, je soutiens des individus. À certains endroits, je soutiens des gens qui sont de droite, d'autres qui sont des gens de gauche, d'autres qui sont des gens de la République en marche. Aucun des extrêmes, mais je soutiens les individus et la valeur des individus plus qu'un logo bien défini. Malgré tout ce que je pense de l'arnaque de la France insoumise qui a vendu du rêve.
Là, on parle. Pour,
il a raison.
C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Ils veulent du vote de nos mamans, mais ils veulent pas leurs enfants à l'Assemblée nationale. Et donc, je pense qu'il y avait une arnaque là-dessus. Mais attention, je suis persuadé que les militants le font avec le cœur, avec les tripes.
Mais c'est ça le problème. C'est ça
vous
le problème.
Vous allez vous faire taper, vous, hein, ce soir.
Il faut dire les choses, tout simplement.
Merci, monsieur Messani, à Bruno Pomard, ancien du RAID, membre du RAID, mais également RAID Aventure. Ça continue toujours cet été?
Ça continue. Et puis,
pour cet été?
Beaucoup d'actions. On accueille beaucoup d'enfants des quartiers qui viennent nous retrouver pour des séjours encadrés par des policiers. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, on a lancé des séjours de rupture avec le ministère de la Justice. Je viens de signer une convention avec Dupont-Moretti où je vais accueillir des enfants qui sont sous tutelle de la PJJ pour aider nos éducateurs de la PJJ qui ont un très très lourd travail. Grosse difficulté de prendre en charge des gamins qui sont de plus en plus difficiles. On a une société qui est de plus en plus dure et on a des jeunes qui sont de plus en plus difficiles à gérer. Donc, on va travailler avec la PJJ sur ces sujets-là les 6 prochains mois. Voilà, on est toujours sur le terrain et on aime
merci
les jeunes.
Pour l'information, merci à vous. Merci à Philippe Nadjiboyaki, merci à Yanis à la réalisation, Bilal Nedman. C'est à 20h avec Time Sport. À demain avec autant de plaisir. On ne lâche rien. Ciao, ciao.
Télésinformé tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.